Chapitre 67. 18h41min16s. E. Doty. Bizarre. Z. Zèbre. Zéraphin. Zéphyr. 18h43min32s. E. Doty. Danse la mer. L'écume blanche. Viande. Fraîche. 18h44min57s. E. Doty. Suis aveugle. Vois quand même, au fond de mes souvenirs, tout ce qu'il reste, mon refuge. Tels avaient été les ultimes mots de E. Doty 2 jours plus tôt. Charcot les découvrit sur la fenêtre qui était restée affichée à l'écran dans le bureau de Julien Sidroux. L'informaticien planchait sur le matériel trouvé dans le sous-sol de Marc Victor. Cheveux en pétard, fringues chiffonnées, il ressemblait à un papier froissé sorti d'une vieille sacoche en cuir.
Excusez le bordel, j'ai eu plusieurs trucs sur le feu en même temps. En ce qui concerne votre affaire, ça vous va si je vous passe les détails techniques? Je sais que vous en êtes pas friand.
Allez droit au but, ce sera parfait.
Très bien. Cette fenêtre que vous voyez là est simplement la réplique de ce qui est tapé sur un ordinateur distant. Comme un accès direct à l'écran de l'autre, vous voyez?
Charcot acquiesça. Donc, avant que le contact ne s'interrompe, quelqu'un était bien en train d'écrire ces lignes à l'heure exacte qui était indiquée, demanda-t-il.
Tout à fait. Bien sûr, rien ne garantit en revanche que ce soit réellement Emma Doty qui était derrière le clavier. On met le pseudo qu'on veut.
Ce n'était pas elle. On a eu la confirmation cette fois qu'elle est morte. En début de matinée, Franck avait obtenu des premiers retours du labo, à qui il avait précisé de passer en priorité l'analyse du visage découvert au fond du grenier de tranchées. À cause des produits et du tannage, les prélèvements ADN non dégradés n'avaient pas été simples à réaliser, mais les résultats ne mentaient pas. Le profil était identique à celui du col du fémur. Il était donc évident que la séroplasticienne n'avait pas pu pianoter ses messages.
« Ce charabia, vous avez une idée de ce que ça signifie ?»
s'enquit Charcot.
« Pas vraiment, non. Certains propos sont à peu près cohérents. La plupart, en revanche, ne veulent pas dire grand-chose. Ça donne l'impression d'un truc qui tourne en boucle, qui rumine sans cesse. Franchement, si c'est vraiment une personne qui tape ça, elle doit avoir un sérieux problème dans le ciboulot. »«
Ce serait quoi, à votre avis ?»
À vue de nez, ça pourrait ressembler à du vocabulaire issu d'une intelligence artificielle qui essaierait de faire des phrases. Mais à partir de quel matériau? Et dans quel but?
Charcot fixa l'écran, hésita de longues secondes avant d'ouvrir la bouche. Ça paraissait fou, mais il avait besoin de sauter cette idée farfelue de la tête.
Si je vous dis « téléchargement de l'esprit dans un ordinateur », vous me répondez?
Julien Sidroux se tourna vers lui, un sourire en coin sur le visage.
« Vous ne croyez quand même pas à ce genre de délire ?»«
Je vous pose juste une question. » »«
Alors, je vous réponds juste, impossible. Un pur fantasme d'Elon Musk ou d'un de ces illuminés de transhumanistes multimillionnaires. »«
Pourquoi ce serait impossible ?»«
Mais parce que, en plus de nécessiter une puissance de calcul que nous sommes aujourd'hui encore très loin d'atteindre, il s'agirait aussi de résoudre un tas de problèmes insurmontables, par exemple la numérisation totale d'un cerveau sain ou la reproduction de la conscience. Comment on fait, dites-moi? Comment faire penser un ordinateur? Générer des émotions? Convoquer des souvenirs? Tant que des mystères entoureront notre cerveau, ça restera une vague utopie. Et, à titre personnel, je considère que c'est tant mieux. Car le jour où les machines seront en mesure de réfléchir comme nous, on n'aura pas de mec genre Schwarzenegger pour sauver l'humanité du règne des robots.
L'homme et sa soif de conquête. Charcot trouvait qu'il existait, dans ce que racontait Sidroux, une sorte d'étrange paradoxe qui, si on y songeait, avait de quoi rendre fou. On était incapable de comprendre et de modéliser l'outil qui nous permettrait de comprendre le monde. Franck se raccrocha aux propos de l'expert qui continuait son laïus.
Malgré tout, certains spécialistes des neurosciences estiment que lorsque nous aurons la technologie et les connaissances nécessaires,
Le téléchargement des structures neuronales dans un système numérique permettra de simuler le fonctionnement cognitif d'un individu puisque, selon eux, tout ne serait à la base qu'électricité. Or, c'est bien la même électricité qui fait tourner un cerveau ou un ordinateur. Sidrou piocha une barre chocolatée dans une boîte et l'attaqua à pleines dents. Le commandant enviait ce type qui n'arrêtait pas de manger et était maigre comme un clou.
« Moi, je crois qu'entre la théorie et la réalité, il y a un fossé. Tout ce qu'on sait à peu près faire aujourd'hui, c'est créer des interfaces entre les hommes et les machines et retranscrire les signaux électriques du cerveau de manière à donner des ordres à des ordinateurs. C'est ainsi que, par exemple, un tétraplégique peut se remettre à marcher. On lui introduit des implants dans le crâne qui établissent un lien avec une prothèse de jambe en chintant la moelle. Il lui suffit ensuite de penser à un mouvement. » Le signal émis par le cerveau est alors codé et envoyé au système intelligent de la jambe artificielle qui s'active. Mais, je vous le répète, on est à des années-lumière de ces histoires de conscience dans les machines.
Au fond, il tenait le même genre de discours que Karine Millot, la chef de Victor. Charcot se résolut donc à chasser pour de bon l'idée de son esprit et revint sur du concret.
Vous avez pu localiser l'appareil émetteur de ces messages ?
Instantanément, la frustration s'invita sur le visage de Sidrou.
Malheureusement, non. Enfin, pas précisément. Un VPN protégeait la connexion, ce qui ne permet pas de remonter à l'adresse IP. J'ai eu beau fouiller dans le cache de la bécane de votre suspect, tenter de retracer les chemins empruntés, je n'ai rien découvert de probant. Tout ce que j'ai pu obtenir vient du fournisseur Internet de Marc Victor. Il s'agit de la position de l'antenne relais par laquelle l'ordinateur distant a communiqué. Je vais vous montrer.
Il afficha une carte sur un autre écran. Encore une fois, les environs de Creil. L'informaticien zooma et désigna une zone à une dizaine de kilomètres de la ville.
Voilà, c'est ici que se situe le relais en question. J'ai examiné le maillage des points d'accès Internet dans cette région-là. J'ai fait quelques calculs et j'en ai déduit que l'ordinateur émetteur peut se trouver n'importe où dans un rayon d'environ 5 kilomètres autour de cet endroit. Au-delà, une autre antenne aurait été sollicitée.
Charcot se pencha vers l'avant.
5 kilomètres. Il n'y a pas de solution pour restreindre le champ de recherche ?
Non, désolé.
C'est toujours mieux que rien. Vous pouvez me tracer le cercle ?
Pas de souci, je vous imprime ça.
En deux temps trois mouvements, c'était fait. Le flic observa la feuille qu'il tenait entre les mains. La figure géométrique couvrait une belle surface, mais un nombre restreint de villages était piégé à l'intérieur. En outre, la densité de population ne devait pas être exceptionnelle dans les environs. Enfin, ça concernait tout de même des milliers de foyers. Il remercia Sidrou qui s'apprêtait à s'attaquer à l'ordinateur portable de Stéphane Tranchet, puis remonta à la brigade criminelle. En chemin, il songea à ce troisième homme qui lui échappait encore. Était-il le propriétaire de l'ordinateur qui avait émis les messages ? Malheureusement, les perquisitions au domicile de ses deux complices n'avaient rien livré sur son identité. Pas de carnet d'adresse, pas de photo. Possible que les analyses des téléphones soient plus bavardes, mais rien n'était moins sûr. En bons criminels, ils avaient dû surveiller leurs arrières. Le commandant regagna l'open space de son équipe. Pascal était à l'autre bout du couloir, en train d'auditionner des employés du centre de don des corps. Lucie et Nicolas, installés à leur bureau, vinrent aux nouvelles. Charcot fit circuler la carte en leur résumant son échange avec Sidrou.
Autrement dit, ce périmètre, c'est tout ce qu'on a pour le moment, conclut-il.
C'est à la fois peu et beaucoup, répliqua Nicolas.
En tout cas, on est toujours à proximité de la fac. Il y a fort à parier que le type qu'on cherche y travaille également, et à mon avis, ce n'est pas un étudiant. Pour moi, ces gars étaient liés par quelque chose de plus profond.
Nicolas se leva et lui rendit son papier.
Sinon, de mon côté, j'ai aussi du concret. Je me suis rencardé sur les deux anciens patients de Victor, ceux qui ont subi, comme Calvar et Dubois, un arrêt cardiaque et y ont survécu. Tu voulais savoir ce qu'il devenait ?
C'est vrai, j'avais zappé. Ça dit quoi ?
Le premier, Léonard Malthusiak, s'est ouvert les veines dans sa baignoire l'année dernière.
Le second,
Henri d'Estombe est suivi par un psy pour troubles psychiques. Blanchiment des cheveux, vision terrifiante, tout ça, la totale.
Charcot hocha la tête.
Il faudrait convoquer les proches et leur expliquer ce qui s'est réellement passé, continua Nicolas. Les familles ont le droit d'être informées. Et puis peut-être que ça pourra aider à trouver un traitement pour des tombes avant que ça se termine mal pour lui.
Tu t'en occupes ?
D'accord. Mais t'es pas obligé de me ménager, tu sais. Je peux me rendre plus utile.
Sans répondre, Franck lui tapota dans le dos d'un geste amical. L'alerte avec le cœur d'Audra avait mis un coup supplémentaire à son lieutenant. Pourtant, il était toujours là, debout contre vents et marées. Il forçait l'admiration. Le commandant adressa un sourire à sa femme et retourna dans son bureau. Enfoncé dans son fauteuil, il lâcha un long soupir. Ses semaines d'enquête et d'épreuves étaient en train de l'épuiser. Il fallait identifier le troisième homme, et vite. À la fin de la matinée, Géco vint faire son tour d'inspection, histoire de montrer son intérêt. Il raconta que les esprits s'agitaient sérieusement à la faculté de médecine. La présence de la police dans les murs du CDC créait l'événement et l'information s'était propagée comme une traînée de poudre. Les flics n'avaient pas encore communiqué, mais les réseaux, notamment étudiants, s'enflammaient. Après cette visite, Franck se pencha sur les tonnes de paperasse en retard. Pour une fois, il apprécia de se poser, de paraffer des comptes rendus et de les empiler dans des classeurs. Mais le calme se révéla de courte durée. Pascal, après avoir toqué à sa porte, passa sa tête dans l'embrasure.
T'es en plein rangement à ce que je vois. Je peux te déranger ?
Ça dépend, ça vaut le coup ?
Le lieutenant fit un pas en avant et referma derrière lui.
Un peu que ça vaut le coup.